des contes, des légendes, des traditions, des régions françaises et du monde entier. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un personnage qui nous vient de Moldavie. Il s'agit de Vania Moiseev. Ce chrétien évangélique termine sa scolarité en 1968. En 1970, il devient membre de l'église baptiste et en novembre de cette même année, il est mobilisé. Dans l'armée, il continue à prêcher l'évangile. Ses épreuves sont dures, puis terribles et enfin mortelles. « Dès mon arrivée au régiment, je cherchais un endroit pour la prière. Je marquais une pièce où il n'y avait personne avant 10 heures. Le lever est à 6 heures. Je m'habille et je vais dans cette pièce et j'y prie jusqu'au petit déjeuner », écrit-il. Les soldats font la gymnastique, les exercices, et moi je prie pendant 2 heures. Parfois même, je suis en retard pour le petit déjeuner, car je ne regarde pas l'heure. 2 mois passèrent ainsi, et vint le jour où ma fidélité au Seigneur fut mise à l'épreuve. Je dus rendre compte au chef de la compagnie de mon retard. On lui avait déjà dit que j'étais croyant. Il voulait m'obliger à renoncer à mes convictions, puisque là, nous sommes dans l'Empire soviétique du temps du communisme triomphant. On me donna une punition, travailler toute la nuit, et je travaillais avec joie. Les soldats faisaient leurs exercices et moi je reçus l'ordre de laver le sol de la caserne. J'acceptais tout et me réjouissais. Les chefs me convoquèrent les uns après les autres, mais moi j'écoutais tout le temps Dieu et non les hommes. 20 jours plus tard, on nous envoya à Kertch. L'on commença à me faire subir des épreuves. On me priva de nourriture pendant 5 jours. Ils pensaient que cela me rendrait malade. Mais je ne tombais pas malade parce que je priais. On me laissa partir. Je ne marchais pas dans les rangs et ne chantais pas leurs chansons. Plus tard, on me fit subir d'autres épreuves. C'était déjà l'hiver. Il y avait de la neige. La température était à moins 30 degrés. On me met dehors et on m'ordonne de rester debout pendant 5 heures en tenue d'été. Je priais tout le temps. Après, on m'appelait « As-tu réfléchi ?» et la même punition se renouvelait. Mais je ne sentais pas le froid. Si les chefs sortaient 10-20 minutes, ils grelottaient. Ils s'étonnaient qu'il ne m'arrivait rien par un tel froid. Parfois, je restais une nuit entière et même plusieurs nuits. Cela dura 15 jours. Alors on me permit de dormir avec les soldats de la caserne. En janvier 1971, après un lavage de cerveau au régiment de Kertch, on m'a mis dans un wagon spécial pour prisonniers et envoyé en direction de Sverdlovsk. On me plaça seul dans des cellules spéciales pour des tortures originales. Première cellule, avec un chalet où je pouvais m'étendre. Deuxième petite cellule, où je pouvais rester debout et m'asseoir sur un banc. Troisième cellule, où une douche froide coulait continuellement du plafond. Je pouvais seulement rester debout. Quatrième cellule, chambre froide, les parois congelaient jusqu'à la limite. Cinquième cellule, chambre de torture, compression du corps, où l'on me vêtit d'un costume spécial en caoutchouc qu'on gonflait d'air. On me comprimait tout le corps en augmentant progressivement la pression. Et chaque fois, on demandait « Si telle est la volonté de Dieu, je resterai ici 7 ans, mais sinon, demain, vous supprimerez les tortures. » Cela dura 12 jours, après quoi on me ramena à Kertch. L'univers concentrationnaire soviétique, que l'on appelle le Goulag, existait déjà depuis bien longtemps avant l'histoire que nous vous racontons. Puisque c'était la Sibérie avec le Goulag, ses persécutions, le communisme a fait 70 millions de morts en 70 ans d'existence. Et même si en 1956, il y a eu la déstalinisation, on a continué d'enfermer les populations, on a continué de tuer et de faire des martyrs de tous ceux qui s'opposaient au pouvoir totalitaire et de tous ceux qui avaient une foi vivante. Voici une chanson qui est consacrée à cet univers concentrationnaire, le Goulag, chanson Sibérie, interprétée par Jean-Pax Méfray.
C'est une immense étendue blanche où les fleurs ne poussent jamais. Il y a des baraques en planches gardées par des chiens policiers. À l'intérieur vivent des hommes qui ne sont plus que numéros. Un long cortège de fantômes qui se traînent en courbant le dos. En Sibérie, en Sibérie, maudit soit le vent de l'Oural qui porte loin de tes oreilles des plaintes de ceux qui ont mal. Étudiants, ouvriers, artistes, écrivains, savants, paysans, ils sont tous sur la même liste, jetés aux frontières du néant. Ils ont commis le pire des crimes, celui de vouloir exister. Le poète souffre pour ses rimes, le juif par sa destinée. En Sibérie, en Sibérie, maudit soit le vent de l'Oural qui porte loin de tes oreilles les plaintes de ceux qui ont mal. Là-bas, de temps en temps, les femmes avec des barbelés tressent des colliers et des bagues. Elles font des bijoux, du goulag. En Sibérie, en Sibérie.
Et nous retrouvons notre héros, Vania Moïseïev, qui était en URSS au temps du communisme, puisque là nous sommes en 1971. Il n'a pour l'instant que 19 ans et il est militaire et envoyé à Kertch pour un lavage de cerveau et pour des tortures. Voilà ce qu'il écrivait le 15 juin 1972. Il était soutenu avec sa foi par les anges. Mes chers parents, je vous adresse mon salut chrétien. J'ai été heureux de recevoir votre lettre. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Je vous ai écrit quand le Seigneur m'a révélé quelle est la voie la plus juste, qui doit être celle de tous les chrétiens. La deuxième lettre vous fera connaître ce travail, car le Seigneur révèle tout. Mes parents bien-aimés, quand j'étais à la maison, Ilyusha a appris par moi un psaume. Je vous demande d'écrire. Je te prie, Ilyusha, d'apprendre d'autres psaumes et de les enseigner aux aînés pour qu'ils les chantent, car ils ne savent pas. Hier, je suis allé à la réunion de Kertch et j'y ai rencontré des frères d'une autre réunion d'ici qui, comme nous, ne sont pas avec l'Union des Églises chrétiennes affiliées au Parti communiste. Un frère de Sochi est revenu. Ils avaient entendu parler de moi. La rencontre s'est passée dans un bon esprit. Tous ceux d'ici et ceux de Sochi t'adressent leurs salutations dans le Seigneur à tous les frères en Moldavie. Mes chers parents, le Seigneur m'a montré le chemin et je dois le suivre. Et j'ai décidé de le suivre. Mais j'ignore si je pourrais revenir vivant, car le combat actuel est plus dur que n'a été le premier. J'aurai une lutte beaucoup plus âpre que la précédente à soutenir, sans avoir peur. Jésus marche devant moi. Que mes parents bien-aimés ne soient pas tristes. C'est parce que j'aime Jésus plus que moi-même que je lui obéis. Quoique le corps ait un peu peur, il ne veut pas tout accomplir. Mais je n'apprécie pas la vie autant que j'aime Jésus. Et je n'attendrai pas selon ma volonté, mais comme le voudra le Seigneur. Il dira d'aller et j'irai. Ne soyez pas triste. Si cette lettre est la dernière de votre fils, moi-même, quand je vois et entends les visions, quand je vois les anges et les entends parler, je m'étonne et ne puis croire que Vania, votre fils, parle avec les anges. Car Vania, lui aussi, avait des péchés et des défauts. Mais par la souffrance, Dieu les a lavés. Et il ne vit pas comme il le voudrait par lui-même, mais comme le veut le Seigneur. Dans une des lettres qu'il envoya à ses parents, la veille de sa fin tragique, il écrivait tendrement « Le Seigneur m'a montré le chemin et je dois le suivre. Et j'ai décidé de le suivre, mais j'ignore si je pourrai revenir vivant, car le combat actuel est plus dur que n'a été le premier. J'aurai une lutte beaucoup plus âpre que la précédente à soutenir sans avoir peur. Jésus marche devant moi. » La lettre suivante a été signée par 68 personnes, membres des églises de Sobodetsk et d'autres villes des alentours. En voici les extraits. Le 17 juillet 1972, le frère Vassili Moïsoïev et sa femme Yona ont reçu le télégramme urgent suivant provenant de Kertch, unité militaire. « Votre fils, Ivan Vassilievitch Moïsoïev, est mort tragiquement. » En délivrant aux parents le corps de leur fils, on leur remit un certificat de décès où, à la rubrique « cause de la mort », il était dit « asphyxie mécanique par noyade ». Le procès verbal de l'autopsie indique « la mort est intervenue à la suite de violences ». Avant l'enterrement, le cercueil fut ouvert et toutes les personnes qui assistèrent à l'examen du corps furent horrifiées. Autour du cœur, il y avait 6 profondes piqûres sur la tête, à droite et à gauche, des blessures et des écorchures. Les jambes et le dos avaient été fortement battus. Sur la poitrine, de grandes brûlures, produisant un bruit à la percussion. Autour de la bouche, des ecchymoses. Ayant connu Vania en tant que fidèle témoin du Christ, nous déclarons « Il a été torturé pour Jésus. » Le 16 juillet prenait fin le dernier délai qui lui était accordé pour réfléchir. Les gens en civil, comme l'attestent les documents, avec la participation des chefs militaires, avaient à plusieurs reprises donné à Ivan des délais de réflexion en exigeant qu'il renie ses convictions chrétiennes. Il a accepté les tortures et comme il était fidèle à Dieu, ses tortionnaires n'ont pas réussi à lui arracher un reniement. Alors, pour cacher les traces de leur crime et quoiqu'il fût encore vivant, ils l'ont noyé de force dans la mer à une profondeur d'1,56 m alors qu'il mesurait 1,85 m. Il y avait beaucoup de monde autour du cercueil du frère martyr, frères et sœurs de la communauté baptiste locale, d'autres venus d'ailleurs, et tous priaient Dieu avec ferveur. Les funérailles eurent lieu le 20 juillet 1972 dans l'après-midi au chant des hymnes. On portait des bannières avec des textes sacrés en langue russe et moldave. « Pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort, une acquisition. » Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent causer la perte de l'âme. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu. La vie prématurément tourmentée d'Ivan Moïsoïev, les persécutions qu'il a subies et sa mort en martyr à l'âge de 20 ans, ne constituent pas du tout une exception ou un cas isolé dans l'Union soviétique. Toute la jeunesse chrétienne, à la recherche de l'absolu, attirée chaque jour davantage par l'Évangile et prête à payer cher sa foi en Jésus-Christ, se trouve être la principale cible de la propagande athée et la proie immanquable de la répression policière, toujours impitoyable, envers la nouvelle génération qui refuse de donner à César ce qui appartient à Dieu. Et c'est ainsi que nous allons quitter ce martyr des années 1970 dans l'Union soviétique, martyr de la foi. Nous retrouverons la semaine prochaine d'autres histoires, récits et traditions des régions françaises et du monde entier.